Bienvenue sur Secret Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et qui aiment partager. Aujourd'hui, un épisode qui s'est réalisé à l'occasion du Paris Grand Slam. Ce grand tournoi tant attendu chaque année par beaucoup d'entre nous était l'occasion d'aller demander aux judokas de très haut niveau quelques conseils pour progresser, nous, dans nos dojos. Bon, en réalité, j'aurais bien aimé pouvoir interviewer des judokas d'aujourd'hui, des champions d'hier, même des coachs et pourquoi pas des judokas du public. Mais c'était mon tout premier Paris Grand Slam en tant que presse et il y avait bien trop de choses que je n'avais pas du tout anticipées. Du coup, le dimanche soir, je n'avais pas beaucoup de matière. Mais ce n'est pas très grave parce que d'abord, ce fut une très belle expérience. Je me suis dit, c'est un peu comme sa première compétition. Rien que d'être là, c'est déjà un objectif accompli. Et puis surtout, ça s'est fini en beauté parce que finalement, j'ai pu faire toutes les interviews que vous allez entendre dans cet épisode à l'occasion du Training Camp. C'est l'entraînement qui a lieu juste après le Paris Grand Slam avec toutes les équipes nationales du monde entier réunies. Et ça, c'était vraiment une super belle journée. Je voudrais remercier tous les judokas que vous allez entendre d'avoir pris le temps de s'arrêter quelques minutes au micro alors que c'était une journée pour eux d'entraînement, de travail et qu'en plus il y avait beaucoup de journalistes qui les sollicitaient. Merci aussi à Benjamin Axus que vous n'allez pas malheureusement entendre parce que mon micro était mal branché. Et oui, je suis encore vraiment très très loin d'être une pro. Et je n'ambitionne d'ailleurs même pas de le devenir parce que c'est vraiment un métier et je crois que ce ne sera jamais le mien. Et pour finir, un grand merci à France Judo et plus particulièrement à Stéphane, Fanny, Alexia et toute l'équipe de com, y compris les bénévoles comme Bruce. Bruce, si tu m'entends, voilà, parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidé à faire mes premiers pas dans cet univers de la presse. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et si vous découvrez ce podcast, pensez à vous y abonner, à le noter 5 étoiles si vous l'appréciez, parce que c'est comme ça qu'il va être proposé à des judokas qui ne le connaissent pas encore. Et ça, ça m'aide bien, ça m'encourage à vous faire encore et encore de nouveaux épisodes. Bonne écoute! Que faut-il travailler le plus avant d'arriver en structure de haut niveau? Alexis Mathieu.
Ce qui m'a essentiellement servi, c'est ma base judo que mes parents ont pu m'apporter et m'inculquer dès mon plus jeune âge, sachant que j'ai appris le judo loin, dans un club vraiment tout petit. Donc ce qui m'a permis, j'avais un peu de retard à arriver en France parce que j'avais pas la même confrontation, il y avait moins de monde qu'en France, etc. Donc ça a été très dur de performer. Mais ce qui m'a permis vraiment de passer des caps, c'est une bonne base judo, que ce soit sur les uchikomi, les nagekomi, j'attaque dans plusieurs directions. Voilà, j'ai vraiment une base technique qui est solide à la base. Et tout ce qui est physique, tout ce qui est kumikata, c'est venu au fur et à mesure dans les structures. Donc j'ai fait les choses, je dirais, avec un regard un peu extérieur, un peu à l'inverse de ce qui se passe, de ce qui se produit un peu en France, où dès le plus jeune âge, on veut prendre vraiment du physique aux jeunes. Et souvent, cadet junior, quand j'arrivais sur les chemins de France, les personnes qui gagnaient ou qui étaient souvent sur le podium, c'était pas forcément des gens très techniques. C'était des gens avec beaucoup de capacités physiques et un ou deux mouvements, pas plus. Et au fur et à mesure où j'ai récupéré, j'ai pris du physique, j'ai pris du kumikata avec la confrontation, même à l'international, c'est là où j'ai commencé vraiment à monter d'un cran et à monter dans la ranking. Donc c'est encore ce qui me fait défaut sur le plan international, sur certains profils. J'ai encore des problèmes des fois de kumikata, ce genre de choses, et je pense que c'est aussi le fait d'avoir vécu loin longtemps. J'ai toujours un petit train de retard que je cumule au fur et à mesure, que je rattrape. Mais vraiment, ce qui me permet de gagner des combats, c'est ma capacité à attaquer dans tous les sens.
Ouais, c'est pour ça qu'on
produire techniquement.
C'est pour ça qu'on se régale avec toi d'ailleurs aussi.
Ben, c'est d'autant plus mon plaisir, c'est vraiment que quand les gens me disent « putain, j'adore regarder », parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire chier en regardant un combat de judo. Donc moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est de chercher le hippon et j'espère faire vibrer aussi les gens comme ça.
C'est top, bah, mille merci, on va travailler la technique alors.
Je t'en prie.
En quoi un travail en one-to-one avec Kylian Leboeuf fait progresser? Chérine Boucli.
Alors moi, ce que je fais beaucoup avec Kylian, on fait beaucoup de techniques. Donc c'est un truc que je fais beaucoup et je fais beaucoup d'exercices de corps à corps, de mobilité, d'essayer de tourner, de me mettre en gauchère, puis en droitière pour un petit peu avoir une visibilité, je dirais, 360 dans ce que je fais. C'est essayer des choses. Hein. Et moi, dans la partie technique, on est sur le tactico-technique, hein. On est sur des trucs de distance. Mais moi, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment cette partie-là. Je faisais pas beaucoup de techniques aussi spécifiques à l'INSEP. Et en fait, tout ce qui est corps à corps, exo de lutte, par exemple, jiu-jitsu, tout ça, ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en moi dans ma discipline, parce que moi, je ne suis pas du tout corps à corps à la base, mais j'ai l'impression que je commence à capter des choses, je commence à avoir confiance en moi, et, et moins me sentir en danger et peur, parce qu'on a peur hein, des fois hein, de certaines situations, faut le dire, hein, on a tous peur. Hein. De certaines situations, on n'est pas forcément à l'aise. Moi, j'ai peur de prendre un ouran quand je fais ma hanche, j'ai peur de... Mais du coup, on sent des appuis, des fois sur des trucs qui paraissent anodins. Hein, je sais pas, on va faire des exos en lutte, où des fois on se passe bras dans bras, comme ça. Du coup, on se met en situation de gauchère, en situation de droitière. Après, bah, derrière... Moi, je fais beaucoup dans la sensation. Moi, j'aime le judo en sensation. C'est vraiment ce que j'aime. Et en fait, derrière, on va faire des exos où on va prendre... Par exemple, je vais faire travailler que ma main droite. Et après, je vais faire travailler que ma main gauche. Donc, du coup, je vais être à distance. Je sais pas, bah, mon objectif, main droite, tu touches pas mon kim. Donc, que avec ma main droite, empêcher de engager droitière. Main gauche, pareil. Donc, il y a des petits... En fait, on se focalise sur des petits points, comme ça. Et en fait, ce qui me dit à chaque fois qui est bien, c'est que j'arrive à très rapidement tout assimiler en un. Donc au tout début, en fait, on fait cette main-là, puis après un peu comme ça. Puis après, on se déplace croisé, après on fait un peu de maquicom. Je ne fais pas du tout de maquicom. Hein. Moi, je fais beaucoup de choses que je ne fais jamais, peut-être que je ne ferai pas, mais peut-être que je le ferai le jour J. Hein. J'en sais rien. Et après, à l'entraînement, ça développe des sensations ou des trucs que des fois, je ne me rends pas compte que je fais et je ne sais pas pourquoi je fais. Après, on bosse aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est beaucoup dans mes déplacements. Moi, les différentes prises de saisie, des fois je suis triceps, des fois je suis en haut, des fois je suis revers, des fois je suis manche. Et ben, je suis de plus en plus à l'aise avec tout ce que j'attrape. Donc des fois, j'attrape n'importe quoi et pourtant la fille n'est pas à l'aise en face. Alors qu'avant, on est trop dans le judo, des fois, ben, moi j'ai toujours besoin d'être main droite en haut. Mais en fait, pas forcément. Donc du coup, moi des fois, je suis triceps, je suis à l'aise. Parce que en fait, j'ai travaillé le triceps, mettre dans des positions, le pousser, tirer. En fait, il y a beaucoup de déplacements, de décalages que je fais et qu'on n'a pas l'impression et que tu ne mets pas à l'aise en fait la fille. Parce que des fois, en fait, je mets de la tension sur le triceps, je la pousse, je la tire, je la pousse, je la tire. Ça crée des réactions et en fait, je la mets dans des situations où elle n'est pas bien, quoi. Et des fois, c'est rien, ça ne joue à rien. Et voilà, après moi, c'est beaucoup... C'est ça, en fait, le pré-contact, le déplacement avant saisie et tout ce qui est poussé, tiré, parce qu'on ne peut pas faire que judo en traction et on ne peut pas faire judo qu'en poussé. Donc, il faut un petit peu mélanger tout, quoi. Voilà. C'est
génial. Quelles sont les clés pour gérer un golden score? Audrey Tcheméo.
Je pense que les golden scores, ça se travaille à l'entraînement comme chaque ouais. exercice. Après, c'est vrai que les golden scores, c'est particulier parce que c'est carrément la mort subite.
Ouais,
donc, c'est vrai qu'en fait, il faut rester focus sur le schéma et ne pas... Voilà, rester focus sur le schéma, ce qu'on a à faire et voilà, toujours être lucide, mais c'est facile à dire, mais c'est dur à faire.
Donc la
vraiment,
lucidité,
faut vraiment ouais. rester lucide et être sûr que vous allez mettre la personne dans le jeu. Donc faut rester déterminé jusqu'à la fin.
Ouais.
Mais c'est dur.
Ouais.
Comment travailler sur un stage international? Est-ce que c'est comme d'habitude? Daiki Booba.
Je pense que c'est bien de faire un peu des deux. C'est-à-dire que c'est toujours bien d'avoir des thèmes de travail quand on est à l'entraînement. Ça, il faut le garder, que ce soit à l'INSEP ou que ce soit sur les stages internationaux. Et ensuite, sur ces stages-là, c'est l'occasion aussi de prendre les meilleurs mondiaux. Donc, il faut aller les cibler directement parce qu'il y a bien sûr, il y a énormément de gens qui vont venir les inviter. Et donc, souvent, ils sont full pour la plupart des randonnées. Donc, il faut essayer de les inviter le plus tôt possible. Et voilà, après, si on a fait un peu de résultats, ils acceptent plus aussi de faire avec nous. Mais ça, voilà, c'est un peu les deux. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue les thèmes de travail qu'on a. C'est vraiment important de progresser tout au long de notre carrière et sur tous les entraînements. Et bien sûr, il faut essayer de prendre les meilleurs mondiaux parce que c'est en se frottant aux meilleurs qu'on progresse aussi. Donc il faut essayer de faire les deux.
Et tu vises que ta catégorie de poids à peu près?
Pas forcément. Je privilégie quand même ma catégorie de poids. Parce que pour avoir les habitudes physiques de quelqu'un qui fait le même poids que moi. Mais il y a aussi des gens très forts d'autres catégories. Par exemple, moi, je suis 66, je fais des fois avec des 60 et des 73. C'est pas très grave. Ça dépend le thème. Parfois, le thème, c'est faut préparer le spécial et se retrouver dans la situation où, justement, où se retrouver le plus possible dans la situation où on peut mettre le spécial. Et des fois, c'est justement essayer de développer son judo en dehors du spécial, puisque faut pas qu'on soit trop concentré non plus sur la même chose, sur le même schéma. Et du coup, essayer de développer les secteurs où on n'est pas habitué à travailler. Donc en fait, ça dépend du thème de travail. C'est vraiment important d'avoir un thème, de répéter ce thème-là, même si ça ne marche pas, pour vraiment pour voir si ça marche. En fait, c'est qu'en répétant plusieurs fois qu'on peut voir si ça marche ou pas. Si on échoue dès le début et qu'on abandonne, bah, c'est peut-être un thème qui, au bout de plusieurs répétitions, marche. Donc... Il ne faut pas arrêter de le travailler. Et au bout d'une certaine période de travail, on peut dire si vraiment le thème est un bon thème de travail ou pas.
Génial.
Comment travailler avec un thème? Maxime Merlin.
déjà, quand on parle de thème de travail, ce qui est important de comprendre, c'est que le judo, c'est un sport de combat, mais c'est pas que la bagarre. Et il a dit au moins une dizaine de fois le mot travail, juste avant moi, Daiki. Ce qui est important, c'est de comprendre que pour progresser, il faut avoir des thèmes, il faut travailler. Et c'est pas forcément à nous de décider, nous, athlètes, de décider du thème qu'on va mettre en place. C'est justement au coach de le faire. Parce que, comme je pense la plupart des judokas se sont rendus compte qu'ils aient combattu en compétition ou non, c'est très difficile de visualiser comment on combat, comment on travaille de l'extérieur. Et c'est là que l'entraîneur va avoir sa part. Nous, notre entraîneur, Alexandre Bordorieux, il va tout le temps nous définir des thèmes de travail et ensuite on va se les approprier, c'est-à-dire les intégrer à notre sensation, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Si, je donne un exemple, on va avoir un thème où il va falloir mettre du débit, attaquer beaucoup, et bien si on va se plier à dire ok, je respecte mon thème mais j'y crois pas et je fais ce qu'on me demande, ça fonctionnera pas. Il faut se l'approprier, essayer de l'adapter à ce qu'on sait déjà faire pour que ce soit efficace. Voilà ce que je pense. Le thème, c'est pour tout. Le thème, il peut même être adapté jusqu'à la préparation physique. C'est possible. C'est-à-dire que si je parlais du thème de mettre du débit, faire beaucoup d'attaques, on voit que c'est quand même très stratégique maintenant le judo, il y a beaucoup de shido. Si ce thème, c'est celui-là, bah, dans tout l'entraînement, il va falloir mettre du rythme en permanence pour s'habituer à cet effort-là. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de le faire, s'il se met à le faire, bah, au bout de 2 minutes, il va être explosé. Au bout de 2 entraînements, c'est cuit et il ne pourra pas le travailler suffisamment pour que ça s'imprègne dans sa façon de combattre. Donc le thème, ça se travaille en préparation physique, ça se travaille sur le tapis au club quand on est chacun de notre côté et qu'on travaille techniquement. Et ensuite, ça va se travailler en opposition de plus en plus élevée jusqu'au randori sur ce genre de tapis de niveau mondial.
Génial. Et une dernière petite question. Du coup, globalement, il y a une fourchette de durée de thème, c'est...
Ça peut être d'une séance à une saison. Voilà. Ça peut être... si c'est pour corriger un détail, ça peut prendre très peu de temps et ça peut être approprié très rapidement. On peut se l'approprier très rapidement. Si c'est une façon de combattre en général, c'est quelque chose qui va mettre énormément de temps à s'imprégner. Et on le voit, les coachs japonais qui font énormément de randori, énormément de volume dans les séances, ils ont des postures de japonais. On l'identifie, ils tiennent droit, ils sont forts sur les mains. Et ça, c'est des choses qui vont s'inscrire vraiment dans le temps. Voilà.
Est-ce que la vitesse sur les mains et les attaques se travaillent, Luca Merzé?
Ça a toujours été mon judo. D'être toujours premier sur les mains, pas laisser respirer en face mon adversaire, à être tout le temps dynamique, à être tout le temps premier sur l'attaque, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit en fait. Et du coup en fait, comme je fais ça depuis tout petit, j'essaie d'améliorer parce que j'avais des phases où j'essayais d'être tout le temps premier, mais ça manquait un peu de la qualité sur mes attaques. Et aujourd'hui, j'essaie d'attaquer peut-être un peu moins, mais j'essaie de mettre plus de qualité. Donc j'ai toujours eu ça, mais j'essaie de progresser, j'essaie d'améliorer quand même mon judo pour avoir plus de qualité.
Donc c'est-à-dire que même sur une force qu'on a au départ, c'est important de continuer à la travailler?
De toute façon, on peut toujours améliorer notre schéma tactique, nos prises des jeux, nos techniques de judo. Donc, je ne reste pas sur mes acquis. J'essaie tout le temps de progresser. À chaque fois, j'essaie de prendre mes matchs justement pour voir les erreurs que j'ai pu commettre et justement pour mettre les exercices et puis les thèmes de travail que je peux effectivement faire lors de mes séances de randori. On est face à face et puis on peut faire les relais sur les judogis en face à face, oui.
D'accord.
Oui, ça existe justement pour travailler la rapidité, pour poser plus rapidement possible les mains sur les judogis. Oui, il y a ce genre d'exercices justement pour améliorer sa rapidité, pour bien poser son kumikata.
Adapter son judo selon le partenaire ou garder le même schéma? Léa Fontaine.
À chaque fille, j'adapte un schéma différent et du coup, ça me permet de trouver la solution pour la faire tomber ou pour peut-être gérer au shido ou essayer autre chose ou au sol. Ou...
Et du coup, c'est des schémas que tu travailles en amont?
C'est des schémas qu'on met en place à l'entraînement, qu'on essaye de mettre en place à l'entraînement. Après, aujourd'hui, j'avais un thème assez particulier. Hein. Je me suis dit, moi qui ai une grande fan de venir chercher au revers, aujourd'hui, j'avais pour thème de venir à la manche. Donc thème assez réussi sur la séance, on va dire. Donc moi aujourd'hui je sais très bien que les filles m'attendent parce que je vais mettre ma main au revers pour tracter et monter. Donc là c'est démarrer manche et tracter le bras et monter quoi.
Comment gérer le mental lorsqu'on découvre son tableau, Faïza Mokhdar?
Bah en fait moi faut savoir que je regarde même pas mon tableau. Je regarde le premier combat, je prends qui, et après je me concentre sur ce combat, je regarde la veille, et après le jour même je prends combat par combat. Mais je regarde jamais le tableau entièrement. Et voilà, parce qu'en fait, on sait pas qui me prend, ça sert à rien de s'imaginer prendre quelqu'un d'autre, faire ci, faire ça. Je préfère savoir qui je prends et dessus, je fais de l'imagerie mentale et je me dis voilà. Ouais, bah en fait, moi, je m'imagine en train de combattre contre cette personne et de lui mettre la technique que je dois lui mettre en fait. Et je m'imagine ça plusieurs fois dans ma tête. Et voilà, c'est comme ça que je fais en fait avec toutes mes adversaires.
Bah, ça marche bien, apparemment.
Ouais, ça va.
Un exercice spécifique qui peut faire passer un cap, Madeleine Malonga, Margot Pino, Alpha Diallo.
Alors moi, mon tips pour un entraînement qui se rapproche de la compétition et du coup qui me fait même passer des caps, il y en a plusieurs. Le premier, je dirais, c'est entre les uchikomi et les moments des randori, faire des travails à thème, c'est-à-dire kumikata, par exemple droitier, gaucher. Parfois, par exemple, faire des uchikomi et des nagekomi en enchaînant sur liaison de boussole. Ouais. Et ça, c'est super important. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est faire des uchikomi à trois. Donc, on fait un uchikomi sur notre personne et il y a une autre personne qui est derrière, qui tient notre partenaire pour faire un peu de poids. Et au moins, on va ressentir un peu la dureté comme qu'on est en combat où parfois, c'est très difficile de mettre de la puissance dans le nagekomi. Au début, on va être lent, forcément, parce que bah, ça fait un peu bizarre de faire un uchikomi soulevé. Je ne dis pas forcément nagekomi, mais surtout uchikomi soulevé pour bien ressentir le poids de son partenaire, son adversaire, et du coup, mettre un peu de puissance. Et plus on va s'améliorer, et plus on gagnera en efficacité, en force et en vitesse.
Génial. Bon, on a du boulot avec ça.
Voilà.
Allez, ma réponse va porter sur la fermeture des seoi, vu que c'est quand même mes spéciaux. Le travail à trois, où il y en a un qui est derrière pour tenir la ceinture ou qui se met assis. Ça permet de à la fois travailler la fermeture, à la fois sentir une grosse résistance. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, même à très haut niveau, mais qui permet de régler ces petits soucis. Et je pense que ça peut vraiment apporter. Si je fais comme un uchikomi normal, donc moi je le fais à genoux avec une grosse vitesse, le partenaire derrière tient l'autre partenaire qui est au milieu. Et je me jette à genoux et je force, je serre bien mes abdos. Et en général, on fait quoi ? 3 tours de 5 techniques. À la fin, on chute, on fait un dernier nagekomi. Enfin, c'est à vous après de faire votre sauce.
Je pense que ce qui me permet d'être le plus utile, c'est de faire pas mal d'ochikomi, mais des ochikomi en déplacement. Des ochikomi en déplacement sur des profils droitiers, gauchers. Et puis, avant toute chose, c'est aussi se faire plaisir.
Comment repartir au travail après une compétition ? Gabin Supervielle.
On a un premier débrief après la compétition, à chaud on va dire, ou peut-être parfois juste le lendemain parce qu'à chaud c'est trop compliqué, mais on a un premier débrief. Après sur un stage comme celui-là, on va surtout venir travailler ce qu'on a vu avant, ce qu'on a travaillé avant, ce qui est un thème de travail qui est par exemple qui est là depuis 2, 3, 4, 5 mois. Moi je sais par exemple ça va être plus à demain, donc ça va être mon thème sur le stage. Ce qu'on a vu et ce qu'on va avoir analysé sur la compétition, on le reprendra encore plus tard. Et on le mettra en place sur des stages suivants ou pour d'autres compétitions après. On a des thèmes de travail. Par exemple, moi je sais que je fais judo souvent à une main, avec ma main gauche au revers, et je néglige d'être à deux mains. Et donc c'est un thème que j'ai, c'est de me retrouver à deux mains. Donc justement sur une opposition comme ça qui est très très forte, bah, ça me permet d'avoir des repères. Alors je tombe beaucoup parce que c'est compliqué et c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire, mais ça me permet de progresser.
Quelle organisation des différentes compétitions sur une saison ? Walid Kiar.
Ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est la préparation mentale, de se préparer dans la tête en se disant c'est une étape super importante, mais il ne faut pas perdre de vue le vrai objectif qui est les Jeux Olympiques. C'est sûr que c'était le dernier entraînement, la dernière vraie compétition avant les Jeux Olympiques à Paris. Donc c'était le Paris Grand Chelem, mais c'est une vraie préparation. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer et des fois on a envie de tout gagner, mais c'est possible aussi, hein, y en a qui le font. mais il ne faut pas perdre de vue son vrai objectif et de ne pas arriver usé sur le vrai objectif. Donc continuer de progresser, continuer d'avancer en mettant des choses en place, peut-être pourquoi pas tester de nouvelles choses, c'est le moment, pour ne pas les tester aux Jeux Olympiques, sur un droitier, sur un gaucher, certains types de profils, des fois il faut les aborder différemment, certains schémas tactiques, des choses, voilà, je dis n'importe quoi, se déplacer de ce côté-là ou de se déplacer de ce côté-là, peut-être la jouer un peu plus tactique, de prendre moins de risques ou peut-être prendre des risques à l'inverse, ça dépend en fait, tout est possible selon le profil, selon l'adversaire qu'on va prendre, mais de garder en tête que c'est une préparation, même si c'est super important, il faut garder cette compétition comme une préparation. Pour d'autres personnes, c'est un objectif, mais pour nous, c'est un objectif aussi, mais un objectif, je dirais, intermédiaire, qui passe, c'est dans la continuité. Mais le vrai objectif, ça reste les Jeux Olympiques. Oui. J'ai, pour le coup, un peu différemment, parce que j'ai combattu la semaine juste avant sur un Grand Prix, et je ne ferai pas ça une semaine avant les Jeux Olympiques. Donc, et on a fait pas mal de stages avant, donc peut-être que je me préparerai totalement différemment. Je ferai pas une compétition avant, j'irai pas à l'étranger avant en stage. Je serai plus en France, on va dire, à m'entraîner avec les personnes dont j'ai l'habitude de m'entraîner. Et c'est sûr qu'on verrait les choses différemment. Mais voilà, j'ai pris les compétitions comme des entraînements. Bien sûr, je suis à 100% de mes capacités. J'essaye de faire le meilleur. Mais à l'inverse, oui, c'est une vraie bonne question, parce que c'est vrai que je ferai pas une compétition une semaine avant les Jeux Olympiques, ouais. Un peu des deux, je dirais, parce qu'il y a un planning, il y a un calendrier, on va dire, on sait telle compétition est à ce moment-là, tel stage est organisé à ce moment-là, mais vu qu'on a la chance de pouvoir être qualifié aussitôt, on peut gérer notre planning différemment. Donc si jamais il y a une compétition, je suis inscrit, mais que je ne me sens pas de la faire, bah, je peux me retirer, et à l'inverse, si je sens que cette compétition, j'aimerais la faire, je la fais. Par exemple, là, il y a Bakou dans deux semaines, j'avais prévu de la faire. Bah aujourd'hui, je me retire. Et un tournoi dans trois semaines, un mois, où je ne suis pas prévu, et c'est possible que j'y aille. Donc voilà, on va dire qu'il y a un planning type, il y a une organisation prévue, mais on peut changer en cours de route. Mais il y a une vraie organisation, mais il y a certaines compétitions où on peut se retirer ou se mettre... On a la chance de pouvoir être sélectionné, comme je dis, assez tôt. Donc, on peut gérer notre planning un peu différemment. Mais on va dire que les grosses dates sont prévues et elles ne bougeront pas. Ça, c'est les compétitions, c'est, comme je disais, la préparation. Donc, on peut changer certaines dates. Ouais.
Pourquoi et comment faire pour travailler avec des plus lourds que soi ? Aurélien Diès.
Moi, j'aime bien faire avec les lourds. Depuis que je suis petit, je suis du club de l'Est Bondy Judo. On faisait souvent avec les lourds et beaucoup de lourds au club. Et ça m'amuse parce que souvent... Je ramène beaucoup de mobilité et avec ces lourds-là, donc ils aiment pas forcément beaucoup plus que moi le randori. Et ça permet de moi de travailler différemment. Je suis souvent plus rapide que eux sur les mains au niveau du kimikata, donc ça me permet de répéter un peu en automatisme sur les mains. Et après, d'utiliser le déplacement pour l'empêcher d'attaquer. Un lourd, entre guillemets, c'est dangereux ou que quand il attaque. C'est-à-dire que si on vient le déplacer et qu'il n'est pas sur ses habits pour pouvoir attaquer, c'est pas forcément très, très dangereux, donc il ne peut pas forcément me faire tomber. Donc ça me permet aussi de travailler l'apport que le déplacement peut apporter et le kimikata. Donc c'est ça.
Tu travailles les mêmes techniques, tes techniques habituelles, ou il y en a que tu évites? Parce que moi, j'aurais...
Non, il y en a forcément que j'évite, parce que je sais que... J'ai plus à y perdre physiquement, mais globalement j'essaye sur les mains d'être concentré, d'être plus rapide que lui et d'utiliser beaucoup le déplacement, et je reste sur des hachiwaza sans trop aller me mettre sur des positions où avec son poids il pourrait me mettre en porte-à-faux mes articulations.
D'accord, donc c'est bon pour le cardio, les déplacements et les hachiwaza.
Exactement, et pour le kimikata, parce que du coup ça permet d'avoir de travailler le kimikata. C'est ça. Après, on peut en plus de ça s'amuser à sur des techniques bien choisies, à l'attaquer bien fort, et là ça va nous forcer à être bien explosif, parce que forcément s'il n'y a pas assez de force, il ne bougera pas.
Tu lui donnes jamais de contraintes au lourd, tu lui dis pas vas-y.
Non, je ne donne jamais de contraintes, mais je lui demande même souvent d'aller vraiment et de faire le randori, de ne pas attendre. Et comme ça on fait, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Depuis que je suis en moins de 81, je faisais avec Teddy à l'INSEP et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et c'est toujours un plaisir pour moi de le faire. On bosse différemment tous les deux, et ça nous apporte à tous l'entraide et la prospérité mutuelle.
voilà ce que je vais, les points que je vais travailler suite à ces interviews. 1. Réfléchir à un thème de travail précis, donc idéalement défini par le professeur, comme l'explique très bien Maxime. Mais même si on n'a pas la possibilité d'avoir un regard extérieur qui nous suit sur le long terme, dans le temps, etc., je pense que déjà, même nous, dans un premier temps, on peut se fixer son propre thème de travail et s'y tenir pendant un moment. Moi, je l'ai toujours dit, hein, je suis une grande fan de ça. Ça, pour moi, ça s'appelle l'intention. Ça évite de travailler en général un peu dans le vide, mais avec voilà, des objectifs précis. Travailler avec une intention. Donc, c'est la première chose de façon générale. Est-ce que vous avez un thème de travail ? 2. Si je prends l'ordre chronologique d'un cours qu'on a en général dans notre dojo, ça commence par la phase technique. Donc là-dessus, je vais vraiment retenir le conseil d'Alexis Mathieu. Il a vraiment dit, pour arriver dans de bonnes conditions sur le haut niveau, la base technique, c'est essentiel. Tout ce qui est kumikata et prépa physique, ça peut arriver plus tard, ça pourra toujours se développer. Alors que la technique, il faut prendre toutes les heures à notre disposition pour la bosser. Donc, leçon numéro 2 que je retiens vraiment, c'est pendant les phases techniques de nos cours, de vraiment les pratiquer avec conviction, application, redoublement d'efforts pour avoir cette base. 3. Sur la phase d'uchikomi, j'ai retenu 3 conseils pour la phase d'uchikomi. 1. C'est celui d'Alpha, appliquer des uchikomi en déplacement. Donc dès que c'est possible, parfois le prof il compte pas forcément très vite, même si tout le monde le fait en statique, nous ça nous empêche pas, avec notre initiative personnelle, à créer un déplacement avant la technique. 2. De penser à demander à mon partenaire de se mettre en droitier et en gaucher. Ça je pense qu'on le fait très très rarement et du coup ça m'a vraiment paru super important. Et puis 3. De penser aussi parfois à pas faire des uchikomi de technique, mais faire des uchikomi de kumikata, comme l'explique Lucas, pour être rapide dans le kumikata, trouver quel relais on veut travailler, quelle forme de kumikata on veut travailler et l'appliquer en uchikomi. Ensuite, je continue la chronologie du cours dans nos dojos. On a la phase de nagekomi, ou même peut-être randori, on verra après, mais ça peut être possible en randori. En tout cas, sur le nagekomi, vraiment m'appliquer à travailler cette fameuse liaison de boussole. C'est Madeleine qui nous répond combien c'est important et on l'a vu sur le Paris Grand Slam, on le voit sur toutes les compètes. Les judokas qui sont forts en liaison de boussole puis en sol, franchement, ils peuvent gagner vraiment plus de combats. Ensuite, on en est à la phase de randori, 5e phase. Randori, donc là, j'ai retenu 2 choses qui me paraissent importantes. 1. M'organiser des périodes où je vais vraiment aller chercher des beaucoup plus forts. Donc c'est Daiki qui le dit, c'est en se confrontant aux meilleurs mondiaux qu'on progresse. Nous, dans nos clubs, on n'a pas les meilleurs mondiaux, mais on a forcément, en général, des beaucoup plus forts que nous. Et parfois, c'est ceux qu'on ne va jamais inviter. Donc, au moins sur certaines périodes de l'année, aller se confronter à cela, puisque ça fait progresser. Même si ça va être des phases où on va beaucoup chuter, c'est Gabin qui le rappelle. Oui, on chute beaucoup, mais c'est comme ça qu'on progresse. Encore plus si on travaille son thème avec ses plus forts. Et puis la deuxième chose sur les randoris, c'est d'aller chercher des lourds. Donc ça, je trouve qu'Aurélien l'a très très bien expliqué. Avec les lourds, voire beaucoup plus lourds que soi, on travaille le kumikata, les déplacements, quitte à rester sur du hashiwaza ou quitte à faire seulement certaines techniques et pas toutes pour ne pas se blesser, rester en sécurité. Mais en tout cas, ça fait vraiment progresser de changer de gabarit. Et en plus, comme il le dit Aurélien, c'est un vrai plaisir de partager ces randoris avec des gabarits différents. Pour rappel, c'est exactement ce que disait Anne-Fatoumata Mbairo dans l'interview d'il y a 2 mois, que vous pouvez retrouver dans les épisodes. Et elle expliquait, c'est une lourde justement, elle expliquait qu'elle aimait bien faire avec des légers aussi, parce que ça la faisait travailler très différemment. Et Anne-Fatoumata faisait même remarquer que d'après elle, c'est la force des Japonais, c'est qu'ils sont peut-être moins nombreux dans les structures, et en tout cas ils travaillent tous ensemble avec tous les gabarits différents, et pour elle, c'est l'une des dimensions qui fait leur force. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vraiment pu observer. Ceux qui ont suivi mon journal quotidien du Kangeko du mois dernier quand j'étais au Japon, ça a été l'une des grosses leçons que j'ai retirées, c'est de mélanger les gabarits et d'aller progresser dans cette direction-là. Quand tout le monde joue le jeu, ça fait vraiment progresser, c'est un tout autre état d'esprit, c'est beaucoup de plaisir aussi. Franchement, j'ai adoré, j'ai qu'une envie, c'est d'impulser ce genre de dynamique dans les clubs. Si, au passage, si vous n'avez pas reçu et que vous êtes intéressé par le journal quotidien de mon Kangeko au Japon, c'est encore possible de le recevoir et le lien est en description, c'est gratuit et vous recevez un petit mail tous les matins à 6h pendant 12 jours avec à chaque fois une leçon que j'ai retirée de la journée de mes tatamis. 6. On a fini la phase des randori, donc là ça va être une phase que je vais appeler après le cours ou lors de stage. C'est à nous de trouver ce moment-là pour faire des sessions d'uchikomi à 3 recommandées par Margot et Madeleine. Donc c'est pas un hasard que ça a été recommandé 2 fois. Et pour l'avoir pratiqué, ça peut vraiment être fait sur toutes les techniques, ces uchikomi à 3, pas seulement des seoi.
La deuxième chose aussi qu'on peut faire après le cours, ou en tout cas se trouver des moments en stage ou même sur d'autres créneaux, c'est exactement ce dont parle Chirine sur le travail en one-to-one à deux qui ouvre cette porte à la recherche, à tester, à travailler en sensation, à aller faire des choses qu'on ne fait pas forcément d'habitude. Elle l'a vraiment bien expliqué. Je suis convaincue que c'est un travail de fond qui fait vraiment progresser, qui est important, qui, ça c'est mon opinion personnelle, qui à mon avis aussi permet de garder le lien avec ce plaisir dont parle Alpha et qui est si important et que parfois on peut un petit peu perdre quand on est à fond, à toujours se donner à fond. Mais sur ce travail one-to-one, il y a l'interview de Kylian Leblouc justement qui sort là d'ici une semaine. Donc vous allez voir qu'il en parle pas mal. On aura plein d'infos encore pour progresser de notre côté. Donc voilà, rendez-vous sur l'interview de Kylian qui va arriver. Et puis pour finir, eh ben, la dernière phase, c'est pas les cours, c'est la compétition. On retiendra le conseil de Faïza qui est de même pas regarder son tableau, en fait, de faire combat après combat pour éviter de stresser inutilement. Ça rejoint une approche de prépa mentale qui est bien connue. On en discute dans le groupe Facebook Secret Judoka. Donc si vous êtes intéressé par la prépa mentale et spécifiquement, par exemple, en ce moment, par cette question des tableaux, bah, rejoignez-nous dans les discussions du groupe. Et puis, pour finir, c'est une dernière chose, mais qui est très importante sur la compétition. Je reprends ce que Léa disait, qui est d'avoir un schéma entre guillemets pour chaque partenaire, en tout cas de pouvoir s'adapter à chaque adversaire avec un schéma précis. Donc ça c'est super intéressant, mais il y a un mais, parce qu'au début je faisais la confusion et grâce à Anne Fatoumata qui a expliqué dans son interview, maintenant ça me paraît bien clair que oui, on peut développer plusieurs schémas, mais pas tous en même temps. Sinon c'est ça, c'est éparpillé. Et du coup c'est important de faire les choses étape par étape, et d'ailleurs Léa le dit bien, c'est parce qu'elle est très forte au revers et qu'elle est attendue là-dessus, parce que ça c'est quelque chose on peut dire quasiment d'acquis, enfin voilà, elle est forte là-dessus, qu'elle commence à développer par exemple un schéma pour aller chercher à la manche. Mais du coup c'est bien étape une à une, ça rejoint aussi ce que disait Frédéric Bourgoin dans son interview, que bah, les Japonais, quand ils ont un thème, ils le font pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, ils font que ça. Et d'ailleurs, merci à Daiki dans cet épisode-là, qui a bien dit, un thème, on ne peut pas essayer juste une semaine et se dire ça ne marche pas. Il faut persévérer suffisamment longtemps pour voir si ça marche ou pas. Donc ça, c'est important. Voilà, ça fait beaucoup de travail. Vous retrouverez évidemment cet épisode, comme tous les autres, sous forme écrite d'articles, si c'est plus facile pour vous à relire et à vous organiser dans votre travail. Tous les articles sont sur le blog Secrets Judoka, toujours pareil. Et d'ici là, je vous souhaite bon travail. Merci de votre écoute. Si vous avez envie de réagir, donner votre avis ou même peut-être poser des questions pour le prochain enregistrement, tout se passe sur le site secretsdejudoka.com où vous pouvez d'ailleurs commenter tous les épisodes qui sont retranscrits sous forme d'articles dans la section blog. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil et avec plaisir pour vous y retrouver dans les commentaires. D'ici là, pensez à vous abonner à ce podcast et à mettre 5 étoiles s'il vous plaît, ce serait vraiment top parce que c'est comme ça que le podcast peut remonter dans l'algorithme et être proposé à d'autres judokas. Alors, soyons dans le partage, merci pour eux et puis merci un peu beaucoup pour moi parce que c'est toujours encourageant de savoir qu'il y a des satisfaits au bout du fil. Sur ce, bonne progression à vous et puis à bientôt sur le site, YouTube, Facebook, Instagram, je suis un peu partout mais surtout, j'espère, à bientôt sur le tatami. Bye.